Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, Les combattantes, sortir des violences faites aux femmes, une série de Johanna Bedeau, réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Au départ de cette série, il y a une soirée de Nouvel An qui a viré au cauchemar. Il y a aussi une chanson de plus, aux paroles d'une brutalité inouïe, et des mots qui sont souvent le point de départ de la violence, des mots faits pour humilier. Et puis il y a l'envie de décortiquer ces mécanismes qui détruisent, et de redire que le viol est une volonté d'anéantir, voire une arme de guerre. Et surtout, il y a le souhait de donner la parole à ceux qui soignent, et bien sûr, à celles qui reprennent la main, racontent, et récupèrent le contrôle de leur corps et de leur vie. Parce que, théoriquement, il y a toujours une fin au cauchemar. Pour commencer, les personnages. Une médecin engagée contre le viol, des militantes féministes excédées et qui ont envie d'en découdre, un avocat qui raisonne, une historienne qui renoue les fils et des jeunes gens qui écoutent Orelsan. Ensuite, le décor. Des cours, des tribunaux, des effets de manche, des couloirs, des salles d'attente, de l'attente, de la déception, de la colère, des verdicts, des robes noires, un peu d'hermine et des réunions associatives. Aujourd'hui, premier épisode, on est en France, à Paris, et tout commence avec une chanson.
Le tout début, c'était au printemps 2009. Nous avons été sollicités par des internautes, en fait, qui nous ont envoyé le texte des chansons d'Orelsan. Il y avait peut-être une dizaine de chansons, il y en avait 8 contre lesquelles nous avons porté plainte et qui étaient vraiment assez graves du point de vue des injures faites aux femmes. C'était « Je vais t'avorter à l'Opinel », c'était
« Je te tège la veille et je te rebaise le lendemain, suce ma bite pour la Saint-Valentin ».
« Je vais t'enlever ton pucelage avant que tu perdes tes dents de lait », c'était
« Je te quitterai dès que je trouverai une chienne avec un meilleur pédigre ». En un quart d'heure, j'avais ma bite dans ta ceinture abdominale. Je commençais à l'aimer cette pute. Je vais la limer jusqu'à ce qu'elle soit couchée et qu'elle voie des clochettes.
C'était « Je vais te maritrintigner ». C'est un néologisme qui a dû faire très 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 mal à la famille de Marie Trintignant. Faut penser à inventer un tel mot. C'était aussi « Toutes les meufs, c'est des putes », dit à tire-larigot au long des chansons.
En fait, j'ai été alerté par quelqu'un qui était en contrat aidé chez nous, qui m'a mis sous le nez les paroles d'Orelsan en me disant « qu'est-ce qu'on fait ?». Il se trouve qu'il était programmé à Rennes, dans une MJC. Quand vous êtes programmé dans des MJC, dans des festivals, financés en partie par des collectivités locales, voire des services de l'État, qui par ailleurs mènent une politique d'égalité, de respect des relations filles-garçons par les adolescents et les adolescentes d'aujourd'hui, et que vous financez de tels concerts, de tels cachets, il y a quelque chose de schizophrénique qui pose très sérieusement problème.
Les paroles d'Orelsan. De quoi on parle ? On parle de ça.
Tout commence par les mots. Johanna Bedeau, Marie-Laure Ciboulet.
On a été mobilisés dès 2009 lors du concert d'Orelsan au Bataclan.
Sabine Salmon.
Pour aller interpeller les spectateurs et spectatrices qui se rendaient au concert d'Orelsan. Maxime Apostolo, donc le porte-parole de l'association Pulsar, avait beaucoup travaillé sur cette question puisqu'il y avait eu déjà des concerts d'Orelsan dans sa région. Et du coup, il a été assez moteur, en fait, dans cette mobilisation. Il a créé un visuel. Dans l'une des chansons d'Orelsan, il dit « Je vais te faire tomber tes dents de lait, je vais t'avorter à l'Opinel ». Et donc, il avait reproduit le portrait d'une petite fille qui avait les dents de lait cassées. Et il avait fait une croix dessus et on avait extrait les paroles en fait de la chanson pour aller distribuer aux spectateurs et spectatrices et les parents qui accompagnaient ces jeunes, parce que c'est beaucoup des jeunes en fait de moins de 18 ans. Et donc on avait imaginé cet outil avec lui pour leur dire: est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez pris le recul nécessaire pour bien lire et comprendre les chansons du chanteur que vous allez écouter? Et lorsqu'effectivement on a lu les paroles, il y a eu un moment de « Ah bon, non, mais en même temps, un moment de doute. C'est pas possible que ma fille ou mon fils soient fans d'un chanteur qui ose des propos de ce type-là.
Voilà, ils étaient décontenancés, parce qu'aujourd'hui, qui fait attention au sens des choses ?
Maxime Apostolo.
Au sens des mots, au sens des paroles, au contenu, aux valeurs véhiculées, qui fait attention à ça ?
Il n'y en a aucun qui a quitté la file d'attente et qui a dit non, 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 attends, c'est pas possible, on repart, quoi. On s'est revus, on se revoit toujours après des actions, on essaie d'en tirer le bilan. Et puis, Aurel San était programmé dans d'autres festivals, c'est les festivals de l'été. Et donc, ce qu'on avait fait devant le Bataclan, on disait, mais il faut que ça se reproduise aussi dans les autres lieux de France où il est programmé pour continuer à interpeller l'opinion publique sur les propos et le contenu des chansons. Donc, d'abord, il y a eu cette étape-là d'interpeller les élus qui subventionnait ces festivals dans lesquels il était programmé pour dire nous on n'a pas envie que notre argent, c'est de l'argent public, aille dans un festival qui soutient un chanteur qui a de tels propos, enfin qui nous fait reculer nous, acteurs et actrices de terrain, de 30 pas en arrière alors qu'on a mis des années à avancer de ces 30 pas.
Vous avez été soutenu tout de suite ?
Pas tout de suite, ça a été difficile, mais Ségolène Royal à l'époque nous a soutenu, enfin a fait tout pour qu'il ne se produise pas. Voilà, il y a eu des mobilisations d'élus sur le terrain qui ont été positives, d'autres qui ont dit écoutez, c'est comme ça, c'est déjà fait, on a déjà programmé, on peut pas revenir en arrière, mais vous pouvez quand même distribuer devant pour aller à la discussion et à la rencontre des gens.
Les francopholies de La Rochelle se sont achevées hier soir par le fameux concert de rap au cours duquel aurait dû se produire Aurel San. Cette 25e édition du festival aura été assombrie jusqu'au bout par la polémique sur la déprogrammation du chanteur. Ce n'était pas une censure, jurent les organisateurs qui voulaient juste éviter un déploiement de CRS, mais hier soir, la pilule avait encore du mal à passer. Le reportage de Julien Fleury.
Le public de la scène de la Motte Rouge est jeune et métissé, festif mais sans excès, ce qui n'empêche pas d'être scandalisé par la déprogrammation d'Aurel San.
Je trouve ça pas normal qu'il soit pas sur scène ce soir, et au final ça fait plus parler de lui et c'est pas plus mal pour lui.
Au détour d'une chanson, Oxmo Puccino rend un hommage sobre, sans le citer, à celui qui n'est pas là.
La vie plus difficile à un artiste qui a du talent. Si en plus de ne pas encourager les artistes, on leur tire des balles dans le pied, ça ne présage qu'un avenir un peu triste.
Beaucoup de jeunes femmes devant la scène, elles aussi auraient aimé découvrir Aurel San à La Rochelle.
Moi rien me choque, ça me fait marrer quoi. Je pense que c'est du second degré, faut pas prendre ça au mot quoi, tout simplement.
D'ailleurs s'il y a des filles ce soir, c'est bien parce qu'il y a du second degré.
Aussi, ouais.
Ce n'est pas la vie d'Aquila.
Elle a le droit de s'exprimer, mais si c'est pour critiquer les femmes, puis dire que c'est des putes, ça perd un peu de son charme.
À son tour, le deuxième artiste de la soirée, Sefiu, apporte son soutien à Aurel San en brandissant un journal qui fait sa une sur le jeune rappeur.
Aurel San, normalement, il devrait y faire le concert comme tout le monde ici au Franco.
RR chante aux côtés de Sefiu.
C'est de la musique, tout le monde s'exprime comme il veut. Et maintenant, c'est politique. Au début, c'était l'UMP contre lui. Maintenant, c'est UMP avec lui parce que le PS, il est contre lui. C'est la foire, donc Aurel San, dédicace.
Comment a réagi le directeur du Printemps de Bourges ?
Le directeur du Printemps de Bourges ne voulait rien savoir et me disait « Mais moi je suis prêt à interdire, et je l'ai fait d'ailleurs, il parlait de je ne sais plus quel rappeur, qu'il n'avait pas souhaité programmer, qui tenait des propos homophobes. » Là, on peut s'interroger sur les multiples poids et mesures qui concernent cette liberté d'expression. Si on a des propos homophobes, si on a des propos racistes, si on a des propos antisémites, il est quand même peu probable que des partis de gauche, que des partis de droite, mais que des partis de gauche prennent le parti de défendre de tels propos et la liberté d'expression à ce niveau-là. Quand il s'agit de sexisme, quand il s'agit d'images de la femme, de paroles portant sur la dignité de la femme, on sent bien que c'est différent, c'est moins grave, ça prête moins à conséquences, y compris pour des femmes politiques.
C'est quelque part, c'est un marché vendeur. Ça.
Éric Favet.
Voilà. Il s'agit de vendre du glauque, il s'agit de jouer sur les réflexes les plus bestiaux, sans doute dont nous sommes tous plus ou moins porteurs à un moment de notre existence. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que ce soit les producteurs, mais surtout un certain nombre de programmateurs, ne s'interrogent pas là-dessus, au moins ne s'interrogent pas. Pour moi, ça m'a semblé d'une grande facilité, voire même d'une espèce de lâcheté. À un moment, je pense qu'il faut, dans un pays démocratique, assumer des choix et le dire. Et pour moi, ça n'est pas contradictoire avec la liberté de création.
La chanson, c'est juste quelque chose qui parle d'un passage de l'amour à la haine et qui parle des sentiments. Et je voulais montrer que n'importe quel homme, à cause de la jalousie et de l'alcool, pouvait passer d'un amour extrême à une haine extrême. Et j'estime que c'est un sujet intéressant. Mais je regrette pas d'avoir fait cette chanson et j'assume toujours la chanson. Je regrette toute la polémique autour. C'est un peu mélanger le personnage de ma chanson et moi, Orelsan, en tant qu'artiste. Après qu'on trouve la chanson nulle et qu'on trouve que ce soit, comment dire, de mauvais goût, ça, je suis d'accord. On peut avoir son opinion dessus, mais faut pas censurer.
Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre correctionnelle, chambre de la presse. Jugement du 31 mai 2013. Nature des infractions. Injure publique à raison du sexe, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique. Provocation non suivie d'effet à la haine ou à la violence à raison du sexe, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique. Personne poursuivie. Nom Cotentin. Prénom Aurélien Pascal. Né le 1er août 1982. Âge 26 ans au moment des faits. Nationalité française. Profession auteur-compositeur-interprète. Antécédent judiciaire. Pas de condamnation au casier judiciaire. Situation pénale. Libre.
Cinq associations se sont donc engagées dans la procédure donc de plainte, du dépôt de plainte. Donc il fallait aussi
financièrement aussi,
bien sûr. Donc à cinq, c'est quand même ça soulage aussi un peu. Mais il fallait aussi qu'on ait les autorisations de tout le monde, enfin des présidentes, qu'on réunisse les bureaux, qu'on respecte la démocratie de nos organisations aussi. Et donc la plainte a été déposée en août 2009.
Nous savions qu'un article de loi était paru qui changeait la loi sur la presse et qui mettait l'injure sexiste au même niveau que l'injure raciste ou l'injure homophobe, ce qu'il n'était pas à l'époque.
Marie-Noëlle Bas.
Et donc, nous nous sommes dit que là, nous pouvions prendre appui sur ce texte pour enfin proposer à la justice une réflexion sur les insultes et sur l'incitation au meurtre sexiste.
C'est la première fois où on s'est encouragé toutes à se dire « Allez, on a saisi cette loi, et puis du coup, on va voir si on peut arriver jusqu'au bout, et on va voir si elle est suffisante. »
L'objectif, c'était de faire jurisprudence et de faire agir ce texte de loi en la faveur de ce que portaient les associations féministes, les valeurs féministes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit impunément de dénigrer et d'appeler au meurtre de femmes. Moi, j'étais plutôt pour prendre quelqu'un qui était spécialisé dans le droit de la presse. D'autres pensaient que c'était mieux de prendre un ou une avocate qui avait nos valeurs. Finalement, nous avons pris un avocat spécialisé en droit de la presse, Maître Weber, qui a fait le chemin avec nous.
Au départ, ce dossier était traité par une de mes associées, Muriel Brouquet.
Alain Weber.
Et nous avons travaillé ensemble. On a freiné des cas de fer parce que c'est un dossier compliqué. Nous envisagions d'exploiter une loi sur laquelle aucune décision préalable n'avait été rendue. Et il y avait une ardeur, mais aussi une rigueur forte de la part des associations que nous voulions aussi respecter. On ne voulait pas les engager dans quelque chose qui pouvait être déceptif, très long. Donc réellement, on a pris le temps d'examiner le dossier, sauf que nous sommes en matière de presse et que la prescription de 3 mois joue. Donc il fallait être très réactif de manière à ne pas laisser passer une prescription. En fait, le sujet est assez simple. Traiter une femme de sale pute, si c'est une personne déterminée, la personne aura le droit de considérer qu'elle a été injuriée. C'est une injure que le code sanctionne et qui peut aller devant les tribunaux. Traiter les femmes de sale pute, comme étant une catégorie de sale truie, c'est une injure du fait du sexe. C'est-à-dire que ce sont toutes les femmes. C'est comme si on traite le juif Lévi de telle chose, donc le juif Lévi aura un droit personnel à porter plainte, mais traiter les juifs de personnes accrochées à l'argent, etc., c'est une incitation à la haine du fait de la religion. Donc c'est bien là-dessus que nous sommes partis, en considérant que des propos, considérer que c'était les femmes, le genre les femmes, qui étaient l'objet des propos haineux, insultants, et qui pouvaient inciter à la haine, et que les textes que nous utilisions étaient pertinents.
La grande chance que nous avions, c'est que c'était
Florence Moreno,
un blanc de classe moyenne, pas quelqu'un qui allait nous la jouer prolétaire, malheureux, incompris, par la société méchante. Non, voilà un type qui avait eu toutes les chances et donc qui ne pouvait pas arguer d'une revanche sociale. Il avait simplement la haine des femmes, comme c'est très très banal. Donc quand j'ai analysé cette affaire-là, je me suis dit que ça me paraissait judicieux, justement, précisément, cet homme-là.
On était cinq associations, les cinq présidentes étaient présentes, il n'y avait pas assez de chaises d'ailleurs, donc on a un peu bousculé le protocole.
Veuillez vous asseoir.
Procédure d'audience. Le 12 août 2009, Aurélien Cotentin, dit Aurel San, a été renvoyé devant ce tribunal pour y répondre des délits d'injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe. Délits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 2, 33 alinéa 2, 3
la
et
juge,
4
donc,
de la loi du 29 juillet 1881.
Relit pourquoi effectivement nos cinq associations portent plainte, hein, relit tous les textes.
Alinéa 9.
Donc tous les textes incriminés, donc elle est obligée de les lire à haute voix, donc elle lit tout, elle lit tous les propos, donc ça prend du temps parce qu'il y avait beaucoup de textes, mais du coup ça donne le tournis aussi parce que mis bout à bout tous les textes, à la fin on n'en peut plus. Hein.
Parce qu'en fait j'ai pas eu de rapport depuis des mois.
C'est lourd quoi.
Je recherche une fille un peu facile, un peu naïve qui voudrait sortir avec moi.
En émotion, en violence, la violence des mots est là.
Physiquement tu m'attires pas plus que ça, non, mais je taperais dans n'importe quoi. J'ai l'intention de te faire teaser, jusqu'à ce que tu veuilles bien dormir chez moi. J'irai jamais décrocher la lune pour tes yeux, mais quitte à rien branler, autant le faire tous les deux. Où je veux que tu sois plus ou moins ma petite copine, en attendant d'avoir trouvé mieux. Je vais pas te mentir, non. Je suis pas vraiment ton prince charmant. Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire. J'ai rien à t'offrir, à part des mauvais souvenirs. Ça sera peut-être pas tous les jours la fête, je suis qu'un homme, et je réfléchis pas toujours avec ma tête. Maintenant, tu sais à quoi t'en tenir, si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire. Oublie tes rêves d'ado, j'oublie ton anniversaire pour esquiver le cadeau, je paye même pas le McDo. Si tu cherches un beau gosse, sportif et romantique, c'est raté, parce que je suis juste un pauvre type égocentrique. Si ta meilleure copine est bonne, j'essaierai de l'attraper, si je me fais cramer, je dirais que c'est elle qui m'a draguée. Je serai gentil quand t'auras bien travaillé, un bouquet de fleurs de rond-point, je débarque chez toi quand j'ai plus rien à grailler, je fais ni le ménage ni la cuisine, si on va au cinéma c'est toi qui payes, c'est moi qui choisis le film, si on va en boîte c'est sans toi, parce que si je rencontre n'importe quelle meuf consentante, je rentre dans le tas. Je préfère te dire la vérité, oublie les clichés d'amour de série B, on pourrait peut-être kiffer, t'es peut-être ma destinée, mais je te quitterai dès que je trouverai une chienne avec un meilleur pédigré.
Et puis après, donc, Monsieur Cotentin a été appelé à la barre pour répondre en fait aux différentes questions. Et puis après, c'est le rôle des avocats. Il y a eu un moment de silence absolu dans la salle parce que Maître Weber a été présent au moment du procès en fait pour Marie Trintignant, au moment en fait où il y a eu le livre. Et il cite que l'avocat, à ce moment-là, brandit la photo de Marie Trintignant, tuméfiée avec les coups, pour se rendre compte de la violence des coups qu'elle avait subis au moment où nous, on parle du verbe Marie Trintignée. Et donc, il interpelle la juge en disant, voilà, c'est les mots ont leur importance. On crée un verbe par rapport à une situation. Et là, on a senti dans la salle une mouche voler, quoi.
Toutes les dictatures ont commencé par des mots. Il s'agit de dire oui à ce que dit le tyran. Et donc nous, nous disons non à cette violence. Nous le disons avec d'autres mots, des mots pour expliquer. Nous comprenons la colère. La colère existe, la jalousie existe, la frustration existe, mais il y a des moyens pour les exprimer sans blesser et tuer, sans attenter à la dignité humaine. C'est un grand mot. Il faudrait qu'il entende ça, qu'il y a une dignité et que les mots la salissent et la souillent.
Souviens-toi, on s'était rencontrés n'importe comment. J'étais bourrée, je rentrais, je me suis gourée d'appartement. T'étais pas très belle, détresse, presque un beau visage. En détresse, je venais de passer une soirée abominable. Petite fille embobinable, technique de drague d'abdominable. En un quart d'heure, j'avais ma bite dans ta ceinture abdominale. Ouh. T'étais pas un modèle de chasteté. Il y avait la photo de ton cum dans un cœur sur la table de chevet. Au bout de 3 mois, t'as fini par me jeter. On avait pourtant des bons rapports, pas toujours protégés, mais t'avais changé d'avis, tu voulais à peine me faire la bise. Tu voulais construire ta vie avec ton vrai petit ami. Et je me suis dit, il y a 24 heures, elle était sur moi en grand écart, maintenant on se sépare, elle est super amoureuse de son vrai gars. Je sais pas, mais j'aimais pas ça. Ça sentait l'embrouille et c'était le cas. J'ai arrêté de la voir afin d'éviter les dégâts, je pétais des câbles, je commençais à l'aimer cette pute. Quand je me suis retrouvée tout seule, je me suis barrée ça dessus. Je calculais plus personne, je me suis enfermée dans une bulle et une bouteille de Peterson, ça aide pas trop à prendre du recul.
Je n'ai aucun problème ni avec le sexe ni avec le hardcore, bien au contraire, et on en a besoin. Très bien, et on en a besoin dans l'art, mais là on ne parle pas de ça. Là on parle de la responsabilité que l'on a en termes de progrès de l'humanité par l'art et la culture. Et comment soit on tire des enfants vers le haut, soit on les tire vers le bas. On parle de ça.
Je suis complètement fumée comme les grands brûlés. Ma mère trouve mes chansons vulgaires alors que c'était les versions censurées. Petite, essaie pas de me fréquenter ou tu vas perdre ton pucelage avant d'avoir perdu tes dents de lait. J'ai toujours été une victime mais je vais me venger, à moins que je tente le suicide ou de refaire ma vie à l'étranger. Quand j'étais petite, je me faisais courser du collège jusqu'à chez moi. Courez, courez, vous m'attraperez pas. Il y avait toujours un petit bâtard qui voulait me casser le bras. Courez, courez, vous m'attraperez pas. Depuis, je considère que la terre entière a une dette envers moi. Courez, courez, vous m'attraperez pas.
Je me suis demandé comment, sous le coup, y compris du chagrin d'amour le plus terrible, on peut écrire des choses pareilles. J'avoue que c'est pour moi toujours une interrogation. Et nous avons tous en référence quelques textes ou de poètes, d'écrivains, de cinéastes, de peintres ou des œuvres qui ont été inspirées par de profondes fêlures, comme peut l'être un chagrin d'amour. Mais je n'ai jamais trouvé de choses dites aussi ignoblement. Voilà.
Quand même, le leitmotiv de ces quelques chansons, c'est
Emmanuel Piet.
Dans la rupture, ça me donne le droit de tout faire, violer, tuer, etc. Si je suis pas content qu'elle me plaque, je peux faire tout ça. Or, en France, une femme, encore cette année, une femme a été tuée tous les 3 jours par son compagnon, souvent au moment de la rupture.
Franchement, le mot salope et le mot pute, qui sont des mots qui sont employés malheureusement énormément dans ce type de chansons, sont totalement banalisés. Si vous prenez le métro, le train, dans la rue, les jeunes se traitent de pute ou de salope extrêmement facilement. Or, ce sont des mots lourds de sens, réellement. Ça n'est pas anodin de traiter quelqu'un de pute, ce sont des esclaves sexuels. Ce n'est pas anodin de traiter quelqu'un de salope, c'est aussi considéré comme une femme uniquement par rapport à sa sexualité. Donc non, ça n'est pas anodin. Mais oui, ils sont effectivement assez inconscients de ce que ça veut dire. Donc l'idée que ces chansons, ces textes de chansons soient fredonnés ou chantés en chœur par un certain nombre de jeunes, oui, c'est un problème. Je me souviens très bien de ce que l'avocat d'Orelsan disait. Il a dit « Mais madame, vous n'êtes plus du tout de votre temps. Salope est un terme tout à fait galvaudé et populaire. » Et c'est justement ça que nous combattions.
Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation. Ils comprennent pas à quel point on est fêlés. Ils connaissent pas Internet, les boîtes, les grecs, les DVD. Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation. Ils comprennent pas à quel point on est fêlés. Ils connaissent pas le rap, les portables, le shit, la DSP.
Ils devraient pas parler comme ça. Enfin, ils donnent un trop mauvais exemple.
Il y en a, ils sont influencés parce que
C'est leur idole, donc ils le suivent. Ça influe beaucoup les personnes. Par exemple, il y a des rappeurs, ils vont mal parler des filles. Après, il y a beaucoup de garçons qui vont suivre les rappeurs et qui vont se comporter pareil.
Après, voilà, si on prend tout au second degré, ça passe. Et après, il y a des choses sur lesquelles on peut peut-être pas rigoler, d'autres on peut. Et moi, je pense qu'on peut rire de tout, donc à partir de là, le second degré, ça passe, quoi.
Quand il voit que la fille veut rien avec lui, que c'est pas pour lui, après, il commence à l'agresser. Par exemple, et il utilise de mots qui sont pas bien, qui on ne doit pas l'utiliser. On doit respecter l'autre personne et là, il ne respecte pas.
Les meufs, c'est des putes, voilà. Et la langue française est ainsi faite qu'il n'y a pas d'équivalent masculin. Ce qui vous montre bien que notre langue fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire que la sexualité et la souillure ne sont que pour les femmes. Ce n'est pas un procès qui va changer ça, c'est des siècles de pédagogie.
Les femmes, les filles...
Michel Perrot.
Il ne faut pas oublier que ce mot « fille », quand nous le disons, nous pensons aux jeunes filles. Mais souvent, les garçons, les filles. Ça a tout de suite une connotation un peu péjorative. C'est moins que les garçons, c'est moins que rien. C'est quelque chose dont on peut disposer. Et à la limite, c'est des putes. Faut pas oublier qu'au XIXe siècle, quand on parlait des filles, c'était toujours les putes. Les filles publiques, les filles perdues, les filles tout ce que vous voudrez. Donc, que dans une chanson destinée à des adolescents, où il y aura peut-être dans le public des garçons et des filles. Les filles elles-mêmes qui vont, pour ne pas faire bande à part, vont peut-être chanter ça avec les garçons, avec leurs petits copains, pour faire plaisir aux petits copains. Autrement dit, se piétiner elles-mêmes, se mépriser elles-mêmes, et contribuer ainsi à cette dévalorisation d'elles-mêmes, et des jeunes filles, et des femmes dans la société.
Il y a beaucoup de rappeurs, on va dire, ouais, qui parlent mal, on va dire qu'ils parlent mal des femmes, mais c'est ces mêmes femmes-là, on va dire, qui chantent les paroles plus que les garçons. Tu vois, comme par exemple, on va prendre l'exemple sur Booba. Il a sorti une musique récemment. Ben, tu vois plus de filles chanter la musique que de garçons, malgré qu'ils parlent mal des femmes.
Il y a toujours l'idée que sur les femmes, on peut tout dire. Une injure sur une femme, ça fait partie de la vieille gauloiserie française. Ça fait partie des quolibets, des choses qu'on peut se permettre. Et certains diront même... Il vaut mieux le dire que de le faire. Après tout, en parler, en rire, ça n'a pas d'importance. C'est un exutoire. C'est pas grave. Voilà. Ce qui concerne la dignité des femmes, au fond, ce n'est pas grave. À l'heure actuelle, on lutte contre le harcèlement sexuel. Hein. Le harcèlement sexuel, c'est à la fois des gestes et ça peut être des mots. Aussi. Hein. Mais pendant très longtemps, on a pensé que ce n'était pas grave. Que passer la main sur les fesses d'une femme dans un métro, au travail, en faisant un petit geste comme ça, après tout, c'est une façon d'être gay, joyeux. On a pensé ça longtemps. Hein. Simplement, les femmes ne le tolèrent plus. Elles ont pris conscience de leur corps, de leur dignité. Et quand une femme dit non, c'est non. Voilà ce qu'il faut que les gens entendent et comprennent. Quand on entend Aurel San fouler ça aux pieds, ben on est révolté. Et on se dit, mais il n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant de ce que les femmes ont vécu et de ce qu'elles ont fait pour se révolter pendant des années et des années. Au moment du procès Aurel San, au moment de la plaidoirie des avocats, l'avocat d'Aurel San s'est tourné vers moi et m'a dit, mais madame, vous avez tout à fait raison. Et monsieur Aurel San partage vos sentiments. Et Aurel San opinait du bonnet. Hein, il faisait oui de la tête, d'un air de dire oui, je suis de votre avis. Grand Dieu, s'il est de mon avis, qui change.
Maestro, musica.
Personnellement, je pense qu'il y a plus de filles qui achètent et tout des CD des rappeurs qui parlent trop mal des filles plutôt que les garçons. Hein. Tu vois, donc moi j'écoute personnellement, j'écoute du Booba et tout, je m'en fous, parce que ce qu'il dit, moi ça m'atteint pas personnellement.
On n'est pas que sur les paroles aussi, faut arrêter. Il y a l'ambiance de la musique.
C'est l'ambiance de la musique, ça, voilà, c'est pas uniquement les paroles, quoi. Si on devait déchiffrer les paroles de chaque musique, on serait dans la merde déjà.
Les mots peuvent tuer, hein, nous savons bien. Ils peuvent tuer quelqu'un, homme ou femme, par le mépris. Le mépris, c'est terrible. En l'occurrence, dans les chansons d'Orelsan, c'est ce qui m'a le plus blessé. Parce que quand vous empruntez des mots, quand vous les répétez, quand vous les chantez, la puissance du chant, la chanson est une forme de manifestation et c'est un petit peu une forme d'inculcation aussi. Hein. Quand vous chantez, vous prenez les rythmes, vous instinctivement, on se met à danser et de façon joyeuse la plupart du temps. Et c'est comme si on piétinait les femmes en dansant, les jeunes femmes. Il s'agit de jeunes gens et de jeunes femmes. C'est toujours des jeunes filles qui sont visées.
Et le fait de le répéter comme ça, ça nous rappelle, nous, des cas, enfin, des situations qu'on a vécues quand on reçoit une dame qui a été victime de violences, qu'on a traité pendant plusieurs années de sale pute, et puis un jour on en est venu aux mains, et puis peut-être que cette dame, elle n'est plus là aujourd'hui. Donc ça nous rappelle des situations concrètes du quotidien.
Quand vous faites des ateliers d'écriture en prison, dans des maisons d'arrêt, dans des quartiers mineurs, que vous avez affaire à des 13-17 ans, qui ont fait des tournantes, qui ont tapé leur nana, et qui, à tous les coins de phrase, vont utiliser le mot de pute comme étant quasiment une marque amicale. Il y a un glissement sémantique, il y a un glissement psychologique, voire des fois un glissement psychiatrique, et du coup un glissement culturel qui s'opère. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes obligé de reprendre tout ça. Vous voyez bien ces conséquences. Alors, c'est pas Orelsan qui est responsable de telle ou telle situation de tension ou de domination. Mais il y concourt.
Les 8 chansons poursuivies présentent une femme ou des femmes ou les femmes sous un jour systématiquement dévalorisant, dans des termes péjoratifs. Pute, chienne, bitch, truie. La femme étant, par l'effet d'un machisme primaire particulièrement dépréciatif, ravalé à un rang inférieur et assimilé soit à une prostituée, soit à un animal, soit à un objet de consommation soumis au bon vouloir de l'homme qui, après s'en être servi, la jette au rebut.
L'axe de défense était très intelligent et très fin et pertinent. C'est-à-dire que si vous interprétez une fiction, si vous interprétez un rôle, si vous interprétez quelque chose, fût-ce abominable, fût-ce terrible, c'est légal.
Orelsan a dit, oui, je joue un rôle. Donc c'est le rôle du white trash, quoi. C'est ça, on joue un rôle. Mais le plus grave dans tout ça, c'est les jeunes. Les jeunes qui vont voir ces concerts-là ne sont pas là à se dire qu'on est dans du second, du troisième, du quatrième degré. C'est une fumisterie, cette histoire de second degré. C'est-à-dire que pour des gamins qui ont 12-15 ans, il est possible de dire « t'approches pas de moi, petite, sinon tu perdras ton pucelage avant d'avoir perdu tes dents de lait ». C'est possible de dire ça. On peut même gagner beaucoup de fric avec ça.
Il ne s'agit pas s'agir de deuxième degré. Parce que qu'est-ce que le deuxième degré ? Le deuxième degré s'adresse à des personnes avec qui nous avons d'abord établi une connivence. Nous sommes d'accord sur des principes, sur des comportements, sur un minimum qui nous rassemble. Et sur ce socle-là, nous pouvons faire des blagues. Par exemple, entre féministes, nous faisons assez souvent des blagues de blondes. Ou bien des juifs font des blagues anti-juifs. Par exemple, entre médecins urgentistes qui envoient toute la journée, ça peut être utilisé comme un défoulement entre eux. Il y a une connivence préalable. C'est entre eux, c'est un humour au deuxième degré. Quand on s'adresse à un grand public, par définition, il ne peut pas y avoir de deuxième degré puisque ce sont des inconnus. Et quand on reçoit des paroles comme « je vais te marier Trintignant », eh bien, on ne peut pas prendre ça au deuxième degré puisqu'on ne connaît pas ce monsieur, mais nous, on connaît Marie Trintignant et on sait ce qu'elle a vécu.
Il n'y en a pas de second degré. C'est pas la caricature du gros beauf que l'on dénonce. S'il y avait un propos quasi donc féministe de la part d'Orelsan. Ça supposerait ça. Ça voudrait dire que voilà, je vais être Marie Trintignée, sale pute, suce ma bite pour la Saint-Valentin, etc. Ça serait la caricature des gros beaufs qui existent et qui se comportent de cette manière-là. Mais à aucun moment, c'est ça. On sait très bien que c'est une instrumentalisation de ça pour du fric. Bah, ça a bien marché, il est arrivé sur Canal+. Ça émoustille une certaine bourgeoisie parvenue, oui. Mais qui ne connaît pas la situation des jeunes d'aujourd'hui, les relations filles-garçons aujourd'hui, que ce soit dans les quartiers populaires ou que ce soit dans les quartiers privilégiés, parce que les deux situations sont préoccupantes.
Quand je fais une chanson, par exemple, comme Saint-Valentin, qui est un délire humoristique autour de pornographie, au contraire, le fait de prendre certains sujets avec un autre degré, un autre angle, avec une certaine dérision, je trouve ça dédramatise un peu certains sujets. Et je pense que l'art, ça sert à ça aussi, et qu'il y a certaines choses qu'il faut traiter d'une manière artistique pour pouvoir, avoir du recul dessus. Je pense que dans l'art, on peut, à peu près tout dire. C'est comme la phrase « Je vais te mettre en cloque et t'avorter à l'opinel ». Déjà, ça se situe dans un contexte particulier et on voit bien que c'est de l'art parce que c'est une hyperbole. Je veux dire, ce que je dis, ça ne se peut pas. On peut pas mettre quelqu'un enceinte et l'avorter dans la demi-seconde. Donc, ça montre bien qu'il y a un certain recul et un certain degré d'expression artistique. Et après, je pense pas qu'il faille censurer des choses comme ça, même si c'est quelque chose d'horrible. Mais ça reste de l'art et je pense qu'on a le droit de plus ou moins tout dire.
N'est pas Villon, Baudelaire, Brassens, Genet ou Léo Ferré qui prétend l'être. Hein. Justement, pour que les mots créent de la distance, il faut autre chose que l'invocation brutale des mots. Et ce que ces textes-là traduisaient, pour un certain nombre de gens qui les entendaient, n'était en aucune manière une mise à distance, mais au contraire, une forme finalement d'acceptation de la situation, notamment de la violence faite aux femmes. Moi, je ne revendiquerais pas ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu comme une forme artistique. Voilà. Pour moi, c'est une espèce de dégueuloir, on va dire, d'une violence absolument, absolument intolérable. Voilà. C'est extrêmement difficile à écouter.
Si, comme il a été dit plus haut, Orelsan, dans le portrait qu'il dresse de lui-même dans plusieurs de ses chansons au caractère nettement autobiographique, apparaît comme un anti-héros fragile, désabusé et dépressif, se contemplant avec une certaine complaisance, bien plus qu'un rebelle ou un contestataire violent et agressif à l'égard de la société, il convient également de constater que dans les chansons poursuivies, toute sa violence et son agressivité se focalisent d'une manière systématique qui paraît relever du procédé sur la femme, créature inférieure, bonne à être prise, quittée, reprise, frappée, insultée, avant de finir au tri sélectif.
Nous avons considéré, nous les associations et leurs avocats que nous sommes, nous avons considéré que, dans certains cas, l'interprétariat n'existait pas et qu'il n'y avait pas cette distanciation. Et le tribunal nous a suivis. Le tribunal nous a suivis sur deux chansons, considérant effectivement que M. Orelsan avait outrepassé la liberté d'expression. Et pourquoi le tribunal a dit ça? Parce qu'il a considéré que, dans deux cas, il n'était pas l'interprète d'une fiction ou quelqu'un qui avait un recul entre le propos et sa propre personne, mais que c'était très exactement son propre propos. Et en réalité, tout le débat est là-dessus. Le tribunal a dit, monsieur, vous êtes sorti de votre rôle de créateur, vous avez fait vôtre le discours que nous considérons comme étant un discours insultant sur le genre du sexe de la femme, et non pas de telle femme.
Le tribunal.
Et vous avez incité à la violence contre les femmes en général.
Déclare Aurélien Cotentin, dit Orelsan.
Et donc vous entrez dans les prévisions du texte et je vous condamne.
Coupable de délit d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, pour le propos, les meufs et des putes, délit commis à Paris le 13 mai 2009.
Il a été condamné à 1 euro symbolique. Nous ne cherchions absolument pas à avoir d'argent. Nous cherchions bien évidemment à faire agir ce texte de loi
qui prouvait que l'insulte sexiste était, et que l'appel au meurtre de femmes, le féminicide, hein, comme on essaye de faire passer comme concept, hein, le féminicide était, pouvait être jugé.
Le déclare coupable du délit de provocation à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, commis à Paris le 13 mai 2009, pour les propos « Renseigne-toi sur les pansements et les poussettes, je peux te faire un enfant et te casser le nez sur un coup de tête » et « Mais ferme ta gueule ou tu vas te faire Marie Trintignée, je respecte les schnecks avec un QI en déficit, celles qui encaissent jusqu'à finir handicapée physique, moi d'abord je lèche et je te tège, et puis tu pars au tri sélectif. » En répression, condamne Aurélien Cotentin, dit Aurel Sant.
En première instance, nous avions gagné. J'ai été enchantée, j'ai exulté, j'ai trouvé que c'était un grand jour. Mais vraiment, je le crois toujours. Un grand jour parce que c'était un précédent. La loi enfin était appliquée et enfin on reconnaissait qu'on ne pouvait pas proférer autant d'insultes sexistes à la seconde et qu'il y avait quand même des limites à l'expression. Et donc, j'aurais bien voulu et je regrette infiniment la stratégie que l'avocat a dit aux chiennes de garde d'adopter, mais j'aurais bien préféré qu'on fasse un grand moment de cette victoire judiciaire, c'est-à-dire qu'on fasse non seulement un communiqué de presse, mais une fête. Enfin, nous avions obtenu raison. Nous étions les premières à utiliser cette loi et nous avions gagné. Et l'avocat nous a dit non, il ne faut pas médiatiser, il faut faire profil bas, on ne sait jamais, il ne faut pas indisposer la justice, puisque... En effet, dans le délai requis, il a fait appel. Et je le regrette encore, parce que maintenant, personne ne connaît cette affaire. Et ce succès que ça aurait été, qui aurait pu donner du courage à d'autres personnes pour s'en saisir. Nous voulions faire jurisprudence avec ce procès. En première instance, nous avions gagné. Il avait perdu, et donc, il aurait pu s'amender, il aurait pu comprendre. Bon.
Cour d'appel de Versailles. Arrêt prononcé publiquement le 18 février 2016, par M. Leran, président de la 8e Chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris, 17e Chambre, du 31 mai 2013.
Alain Weber, est-ce que vous saviez qu'il allait faire appel ?
Ah bien sûr, tout à fait. Bien sûr, parce qu'en plus, vous savez, quand vous êtes opposés, les avocats, mais on discute, donc le confrère m'avait alerté, naturellement, et c'était tout à fait normal. Hein. Et c'est bien d'ailleurs que ce dossier ait eu une vie après cette première décision.
Donc le procès se réouvre dans la foulée. Il y avait toujours donc Aurel Sant qui avait toujours le même discours. Hein,
qui était là cette deuxième fois aussi.
Oui, il était tout le temps là. Hein. Et puis là, par contre, là, l'avocat, ça nous a fait hurler... Parce qu'on était en décembre 2015 et il a osé, parce qu'on est sur la liberté d'expression, on est sur la jeunesse, on est sur ça, et il a osé faire mai 2009 Bataclan, attentat Bataclan 2015. Quoi. Il a dit voilà, c'était dans le même lieu, c'était un lieu d'expression, c'était des jeunes, c'était voilà, la liberté, la joie, enfin... Il a essayé effectivement de mêler l'actualité à une histoire qui est une histoire pas du passé, une histoire aussi du présent, mais sur des textes, mais sur la liberté d'expression. Enfin voilà, que il faut faire attention parce que la sanction, si elle est prise, va entacher cette liberté d'expression. Et rappelez-vous ce qui s'est passé au Bataclan, c'est déjà malmené par d'autres formes d'expression aujourd'hui obscures, terroristes. Et donc, attention. Et moi-même, j'ai perdu des gens que je connaissais au Bataclan. Enfin, ça a été un mélodrame où là, nous, on a dit non. Donc, Maître Weber est intervenu pour dire stop. Ça, on ne peut pas. C'est pas possible, ça. Donc, voilà. Donc, on finit sur une note comme ça, puisque c'est l'avocat, en fait, de la défense qui parle en dernier, et il a fini sur ça. On n'était pas dans la même dynamique parce que nous, notre procès, il arrive, on s'est dit ça va pas, ça tombe pas bien, quoi. Dans le contexte national et international, du coup, il n'arrive pas au bon moment, quoi. Mais c'est comme ça.
Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare recevables les appels formés par le prévenu, le ministère public et les parties civiles. Sur l'action publique, infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, relaxe Aurélien Cotentin, dit Aurel-San, des fins de la poursuite. Sur l'action civile, déboutent les parties civiles de toutes leurs demandes.
Le rappeur Aurel-San a été relaxé cet après-midi par la cour d'appel de Versailles, relaxé au bénéfice de la liberté d'expression.
L'artiste n'était pas présent cet après-midi, mais il est soulagé, c'est ce qu'a déclaré Maître Simon Tahar, son avocat, il l'a eu au téléphone.
Il vient de me dire qu'il était vraiment très heureux de mettre fin enfin à ce parcours compliqué. Et ce qui me paraît le plus essentiel, c'est la reconnaissance du caractère presque absolu de la liberté de création et de la liberté artistique.
La liberté d'expression, c'est de pouvoir tout dire sans limite. En revanche, dire quelque chose sans limite et porter atteinte à des droits des tiers engage la responsabilité de la personne qui exerce cette liberté. L'autocensure, c'est un peu anticiper sur cette responsabilité. Quand un journal ne publie pas quelque chose, c'est que la liberté d'expression du journaliste va être autocensurée par la responsabilité attendue, les conseils des avocats qui vont dire « non, tu peux pas faire ça, c'est trop dangereux, etc. etc. » Mais la liberté est totale. On doit pouvoir tout dire, tout le temps, toute personne, quitte à offenser, quitte à offusquer. Après, où on met le curseur? Où la responsabilité est engagée?
Si c'est... Jusqu'à quel point?
Alors, c'est le juge, c'est l'office du juge de dire cela. Et cette option est totalement partagée par les associations dont nous parlons, si on revient sur le cœur de notre dossier.
Vous étiez assez d'accord, en fait, avec l'avocat d'Aurel-San.
Je suis d'accord avec lui sur la liberté de la création. En revanche, là où je ne le suis plus, c'est que cette liberté de la création, dès lors qu'elle incite à la haine, contre les femmes en l'espèce, mais si c'était contre les juifs, ça serait pareil, si c'était contre les arabes, les musulmans, ça serait pareil. Dès lors qu'elle incite à la haine, ou que c'est une injure public du fait d'un handicap ou du fait qu'une personne est homosexuelle, à ce moment-là, si nous sommes saisis par des personnes qui considèrent qu'elles sont atteintes dans leurs droits, effectivement, il y a matière, le code nous permet d'avoir un tremplin pour accéder au juge. On dit voilà, top top, c'est pas bien ce qui s'est passé, nous vous demandons de trancher. Et la difficulté du juge, c'est qu'il doit trancher entre des intérêts totalement protecteurs. La cour d'appel de Versailles, par des motifs, par une décision motivée, structurée, forte, a dit le rap, c'est quelque chose de particulier. Je m'appuie sur cette culture-là. Et en plus, vous êtes un peu trompé parce que Aurel-San, lui, avait le recul nécessaire. Et qu'en réalité, cette jeunesse désabusée, il l'avait incarnée, mais qu'il ne portait pas le discours. En réalité, je crois que si on voulait être vulgaire, c'est de dire, est-ce que vous êtes un homme sandwich qui portait un discours et donc vous n'êtes que le porteur d'un discours, donc l'interprète, ou bien est-ce que vous êtes celui qui pense le discours? Trump pense le discours qu'il me dit aux États-Unis. Il le porte. Il n'interprète pas un rôle. On est d'accord? Donc, le tribunal a dit, monsieur, vous êtes Trump. Et la cour d'appel de Versailles a dit, non, vous n'êtes pas Trump, vous êtes un interprète.
Est-ce qu'un compositeur comme Aurel-San est responsable de son public?
Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas responsable de son public. Il a, alors, la responsabilité qu'il peut avoir, c'est une responsabilité de créateur, mais là, c'est une responsabilité sociologique, pas juridique. Le créateur crée. Après, la réception par le public est... C'est le problème du public, c'est pas le problème du créateur, parce que si le créateur doit prendre en considération toutes les contradictions de son public, il ne peut même pas maîtriser, à ce moment-là, il assèche totalement sa création, parce qu'il va se mettre des barrages impossibles. Non, non. En revanche, il sera responsable d'avoir porté atteinte à des tiers en diffamation, en injure, en incitation à la haine, selon le texte que nous avons mobilisé, quelque part. Voilà. Mais la création doit être demeurée totalement libre.
Après ce jugement, bien sûr, nous nous sommes réunis, nous avons vu notre avocat, nous étions extraordinairement déçus, nous étions en colère de l'incompréhension, mais nous avons admis, c'est la justice. En revanche, pour positiver et être constructive, ce qui a été très intéressant, c'est que effectivement, il y a eu un débat, et dans la presse, et dans la société. Donc, il y a eu des tribunes pour, des tribunes contre, dans Le Monde, dans Libé, à la télévision, à la radio. Nous avons été confrontés à des rappeurs, nous avons été confrontés à des journalistes qui nous demandaient justement quelle était la effectivement notre réaction par rapport à l'injure sexiste non prise en compte. Et puis, et surtout, 2 heures après, je crois, me souvenir de la décision, de la publication de la décision, le Haut Conseil à l'égalité a fait un communiqué de presse qui confirmait que le sexisme était beaucoup moins pris en compte dans la justice que le racisme, l'homophobie ou l'antisémitisme, et que le Haut Conseil à l'égalité se ferait un devoir dans les mois prochains de travailler avec l'ensemble des corps judiciaires pour faire comprendre ce qu'est le sexisme, qui est un racisme comme les autres.
Même notes musicales et même vocabulaire trash. À l'occasion de la journée des droits des femmes, deux femmes sortent Clit Saint-Valentin. Un titre qui répond directement au tube sexiste Saint-Valentin d'Aurel San sorti en 2007. Dans le clip, on peut voir Sarah Constantin et Elire Duvel Charles se réapproprier la chanson version féministe. Le clip sera alors censuré par Facebook et YouTube 36 heures après sa mise en ligne. La raison évoquée sera que la vidéo comprend du contenu sexuellement explicite. Celle-ci sera finalement remise en ligne et réservée aux plus de 18 ans.
Tu seras mon petit chien et je serai là pour te soumettre. J'ai un pied sur ta bite, un sur ta face et je deviens ambidex. Lèche mes fesses en finesse, t'offre une pilule anti-stress. Excuse-moi mignon, laisse-moi dégrader ton faciès. J'ai mon business en toute discrétion, t'inquiète, j'en parlerai pas. Je te jure qu'on ne verra pas à la caméra. Je jouerai l'ingénieur et je t'emmènerai dans les bois. Avant l'amour, je serai romantique et je te mettrai les doigts.
Bois, lèche jusqu'à ce que tu sois mal en point. Je t'aime, sous mon kiss pour la Saint-Valentin.
J'aime pas trop les 14 février. Les bouquets, moi je te les fais bouffer. Je t'aige la veille et je te baisse le lendemain. Suce mon clit pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Les bouquets, moi je te les fais bouffer. Je t'aige la veille et je te baisse le lendemain. Suce mon clit pour la Saint-Valentin. Appelle-moi maîtresse, madame la grande féministe.
Alors cette censure par YouTube est éclairante sur ce qu'on appelle depuis un siècle et demi grâce aux féministes le deux poids deux mesures. Tout est permis aux hommes et rien aux femmes. Quand on transpose toutes sortes d'actions au féminin, on voit que ben voilà, c'est pas possible.
Le clip d'Aurel San n'a pas été censuré, les paroles non plus, sa chanson reste et les autres aussi. Ça ne choque absolument personne. On est dans cette discussion-là. La société bouge sur ça aujourd'hui. On est en réflexion, on l'a bien vu avec l'affaire Baupin. On l'a vu aussi sur Cologne. On sent qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose qui bouge sur le sexisme. Il y a eu des campagnes sur le harcèlement sexuel dans les transports. Enfin, ça gêne beaucoup parce qu'effectivement, on est en train de réveiller les consciences et de faire évoluer les mentalités. Les lois ont évolué. La preuve, on a un arsenal juridique qui nous permet d'aller en justice, mais les mentalités n'ont malheureusement pas évolué à la même vitesse que les lois. Et aujourd'hui, on est à ce tournant-là, c'est-à-dire est-ce que les mentalités vont suivre cette évolution législative dans le bon sens, ou est-ce que on va reculer et on va avoir un effet plus conservateur et des idées plus conservatrices qui vont l'emporter.
Je pense que depuis l'époque de Lucie, la femme, elle est maltraitée, donc c'est pas aujourd'hui que ça va changer.
Quand bien même, on n'arriverait pas à changer. Quand bien même, on n'y arriverait pas. Est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer?
Oui, mais c'est une perte de temps au final. Et d'énergie. C'est un énervement, ça ne va jamais marcher. Faisons la guerre, dans ce cas-là. Contre les hommes. Je lance un nouveau groupe de féministes. Nous allons nous révolter contre les hommes.
Tu pars en couille, toi.
Ce serait bien beau, mais je pense que ça va marcher, quoi.
En tant qu'historienne optimiste, c'est une variante des historiennes, je pense que ça va mieux. Parce que plus d'affaires sont signalées, plus de scandales éclatent, plus ça veut dire que la prise de conscience avance. Mais au train où ça va, on en a quand même pour 500 ans, minimum.
Tout commence par les mots. Avec Emmanuel Piette, Sabine Salmon, Marie-Noël Bas, Florence Moreno, Alain Weber, Éric Favet, Michel Perrault, Maxime Apostolo et les jeunes de l'école de la Deuxième Chance de Trappes. Comédiens Sarah Le Picard et Olivier Claverie. Merci à Lina et à Linda Simon pour les archives. Prise de son Yann Frécy, mixage Valérie Lavalard. Un documentaire de Johanna Bedeau, réalisé par Marie-Laure Ciboulet pour la série documentaire. LSD, la série documentaire, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez aller au fond, bibliographie, lien, nous podcaster pour le verdict ou nous réécouter Salle des pas perdus, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook et Twitter. Et demain, deuxième épisode, après le silence, sortir des violences faites aux femmes.